Chapitre 24. Momie, sphinx et sarcophage.
Bonjour le sphinx.
Chut, s'habille.
Oh là là, on a bien le droit de s'amuser. Des années que je ne suis pas entré dans le pavillon des savants. Faut arrêter de stresser, majesté.
Tout en tenant la torche dans le couloir noir, Zizo riait de voir les deux copines se chamailler. Du coup, il n'éclairait plus grand-chose.
Eh bien, répliqua Alix, si c'est pour nous faire remarquer, t'avais qu'à y aller toute seule à ton rendez-vous nocturne chez les savants.
Sabi repéra sur le mur un masque de momie et sursauta.
Tu plaisantes? Ces trucs me foutent grave la trouille.
Alors tiens-toi tranquille.
Oh, faut bien les décoincer un peu, ces rats de laboratoire qui bossent ici jour et nuit.
Elle sursauta à nouveau, manquant de se griffer au bec d'un masque d'Horus, le dieu faucon, et se tourna vers Zizo.
Arrête de trembler, mon petit crapaud du Nil, et tiens ta loupiote droite.
Ils passèrent sous un porche gravé de hiéroglyphes et se retrouvèrent au milieu de salles où étaient exposées des dizaines de sarcophages.
Le dortoir est au bout, tout droit, après l'escalier, expliqua Zizo.
Contrairement aux deux filles, il connaissait les lieux pour avoir suivi plusieurs cours dans le pavillon des savants. Il avait adoré circuler parmi ces masques étranges, ces bustes aux têtes d'animaux, ces gros scarabées d'or et ces chats de pierre noire, maigres et fiers. Toutes ces traces d'une ancienne civilisation disparue elle aussi, avant de laisser place à celle que le nuage toxique avait balayée. Sabi gardait ses distances avec une statue de Bastet, la déesse chatte.
J'aurais préféré avoir rendez-vous dans le dortoir des garçons soldats en pyjama, fit-elle, plutôt que dans la cave des grosses têtes à lunettes. Mais c'est ici que m'attend mon chéri, transi d'amour pour sa belle Sabi.
Zizo et Alix ne savaient pas grand-chose de ce que Sabi venait faire ici, à 6 heures du matin, alors que presque tous les enfants dormaient encore, si ce n'est qu'elle avait rendez-vous avec un des enfants savants, Valère, pour lui demander un service. Zizo éclaira avec sa torche des masques égyptiens à tête de serpent et de rat. Sabi leur tira la langue.
À droite, fit Zizo, levant sa torche, c'est le laboratoire.
Par la porte, ils aperçurent quelques savants, étrangement déjà réveillés, qui travaillaient dans la pièce d'à côté. Pastor et Moebia saluèrent respectueusement leur reine, sans se déconcentrer de leur tâche, qui consistait à examiner, à l'aide de microscopes, des plaquettes de verre imbibées de sang. Sur les étagères du laboratoire, Zizo remarqua une dizaine de cages dans lesquelles des oiseaux étaient enfermés. Zizo crut reconnaître les cages d'osier fabriquées par les enfants du tipi pour la veillée du sanctuaire. Mais quant aux oiseaux, comment savoir s'il s'agissait de ceux recueillis pour la cérémonie? Rien ne ressemblait plus à un pigeon qu'un autre pigeon, et, de plus, Zizo n'avait pas assisté à leur envol dans la cathédrale, puis à leur chute. Pourquoi les enfants savants les auraient-ils ramassés? Pour les étudier? Ou, au contraire, attrapaient-ils des pigeons pour leur inoculer une maladie et ensuite les relâcher? Pourquoi? Pour provoquer une épidémie? Pour se débarrasser des enfants du tipi? Si c'était le cas, ils devaient absolument les prévenir.
Une nouvelle fois, Zizo se sentit si lâche, bien au chaud dans le château, nourri, instruit, à s'entraîner toute la journée au beau et autres arts martiaux en vue du tournoi de l'étoile, à s'amuser avec Sabi et Alix à coups de bataille de coussins dans les appartements de la reine, à se goinfrer de lollipops et parfois de raisins fermentés. Bien entendu, il était enfermé ici, contre son gré. Mais depuis combien de temps n'avait-il pas pensé à s'échapper? Des jours, des semaines.
Soudain, Moebia, une fille savante parmi les meilleures élèves en anatomie, l'une des chouchoutes de Liu, les remarqua. Elle se leva brusquement et s'avança jusqu'à la porte du laboratoire.
« Désolé, ma reine, tu n'as rien à faire là !» Et elle claqua la porte.
« Qu'est-ce que les enfants savants trafiquaient ?» s'interrogea une nouvelle fois Zizo. Une recherche si secrète qu'ils osaient manquer à ce point de respect à leur souveraine.
« Eh oh, crapaud, tu t'es momifié ou quoi ?»
Le rire de Sabi tira Zizo de ses réflexions. Ils traversèrent une nouvelle salle, descendirent un escalier raide et sombre, puis Zizo désigna de la main une pièce devant lui,
dont l'entrée était éclairée de deux torches.
« Le dortoir est au fond. »«
Ok, » fit Sabi, soudain moins déluré.
« Merci de m'avoir accompagné. Vous pouvez me laisser ?»
Intrigués, Zizo et Alix abandonnèrent Sabi, non sans lui jeter un dernier regard. Ils la virent lisser son pantalon troué, réajuster son chemisier, tout en dégrafant le premier bouton. Respirer longuement.
« Qu'est-ce qu'elle va faire ?» demanda Zizo.
« Aucune idée, »
répondit Alix. Sabi attendit quelques minutes devant la porte du dortoir des enfants savants. Elle eut le temps d'attraper une lollipop à la fraise avant qu'un garçon n'en sorte.
« On avait dit 6 heures, » fit Sabi d'une voix impatiente.
« Je sais, » répondit le garçon. « Je me suis couché tard hier soir. Fallait que je révise le cours sur les monuments précolombiens et
ça pouvait attendre. Ils sont là depuis 1000 ans, ils vont pas disparaître en une nuit. »
Le garçon bafouilla des excuses pendant que Sabi le dévisageait. Valère, le savant avec qui elle avait rendez-vous, souffrait à ses yeux d'un gros défaut. Il était moche, vraiment très moche, avec une petite tête blanche, une peau grasse, des boutons comme si on l'avait ressorti vivant d'un sarcophage des siècles plus tard, après une momification ratée. Valère faisait preuve cependant d'une qualité hors norme. Il était le plus fort en histoire de tout le château. Sur les périodes anciennes, il en connaissait peut-être même davantage que Liu ou Ogénor. Il était incollable sur les hommes préhistoriques, l'Antiquité, les civilisations anciennes. Enfin, Valère possédait une dernière particularité que Sabi n'arrivait à classer ni dans les qualités ni dans les défauts. Valère était amoureux d'elle. Souvent, quand il la suivait comme un petit chien entre les 7 cheminées de la cantine ou dans la galerie d'Apollon, c'était franchement un défaut. Mais ce matin-là, c'était clairement une qualité.
« J'ai besoin que tu m'en rendes un service, Valère.
Pour toi, ce sera rien du tout. »
« Bien sûr, Sabi, bien sûr, tout ce que tu veux. »
Sa face toute blanche rougissait comme une pomme à croquer.
« Voilà, faut que tu m'expliques ça. »
Elle se trémoussa pour tirer de la poche arrière de son pantalon ultra serré un morceau de papier plié en 4.
« C'est moi qui l'ai dessiné, de mémoire, tu ne vas pas te moquer. »«
Non, non, » balbutia Valère. Son visage avait viré couleur pomme trop mûre.
C'est un tableau qui était accroché à la galerie des poussières et qui a disparu, envolé, comme s'il n'avait jamais existé. Il s'appelait Les Sabines, comme mon prénom. Alors, je veux savoir quelle histoire il raconte.
Valère observa le morceau de papier froissé. Sabi avait un peu honte. On reconnaissait à peine les personnages, les femmes entre les guerriers et les bébés à leurs pieds.
Tu n'as rien d'autre ? Le nom du peintre ? L'époque ? Le courant artistique ?
Tu te fous de moi ? Répliqua la voix cassante de Sabi.
Valère avait pris la teinte d'une pomme pourrie.
Je te fournis le nom de l'œuvre, continua Sabi sur le même ton, avec un chef-d'œuvre signé de ma main. Et ça ne te suffit pas ?
Si, Sabi, si.
T'es le meilleur fouineur d'archives de tout le château, c'est bien ce que tu m'as dit.
Bien sûr, Sabi, mais...
Elle pencha un instant sa tête en arrière, puis la tourna de profil façon égyptienne pour que Valère puisse admirer la cascade de ses cheveux sur sa nuque et le dessin de son visage, de son menton à son front.
« Alors, prouve-le-moi. »
Elle ajouta un sourire pour l'encourager.
« C'est important pour moi, sûrement plus important qu'on ne croit.
Et surtout, top secret, tu ne dois pas en parler, surtout pas à Isalis, ni à personne d'autre chez les singes. » Il y a un mystère bizarre derrière tout ça.
L'importance de sa mission donna un peu d'assurance à l'apprenti historien.
Et moi, je gagne quoi ?
Sabi le fixa, feignant la surprise. Valère semblait se consumer rien qu'à la regarder, comme s'il cuisait de l'intérieur, que sous le rouge de ses joues brûlaient des braises sous narines. Est-ce ce qui expliquait sa tête de bougie fondue ? Sabi se retint d'exploser de rire.
« Tu veux quoi ? »
demanda-t-elle.
« Ben,
Ça mérite au moins un bisou.
Sur la joue?
Sabi observa la peau grasse de Valère. À bien y réfléchir, elle lui parut encore plus molle que de la cire. Plutôt un genre de dentifrice ou de pâte de fromage qu'Honora leur servait parfois au repas. Valère le timide devenait de plus en plus entreprenant.
Je pensais plutôt sur le...
Tu veux que je mélange ma salive à la tienne ? Résuma Sabi.
Oui.
Sabi réprima une grimace de dégoût. Mais Valère, au contraire, semblait quasiment entrer en transe, les yeux exorbités et la bouche ouverte.
Ok, fit Sabi. Marché conclu. Tiens.
Elle ôta la lollipop à la fraise de sa bouche, et avant que Valère ait le temps de refermer la sienne, lui enfourna la friandise gluante et sucrée entre les lèvres.
T'es sûr que c'est par là ?
La torche de Zizo éclairait un mur entier de hiéroglyphes. Les symboles dansaient sous la lumière des flammes. Alix et lui se trouvaient dans une salle basse, voûtée, où ils n'étaient jamais entrés.
« Je crois qu'on s'est perdu, » admit Zizo.
« Pas grave, on est des explorateurs, » le rassura Alix, plus excité qu'effrayé.
« On cherche le tombeau de Toutankhamon sous la pyramide. »«
Toutankhamon ?»
Les quelques cours d'histoire qu'avait suivi Zizo dans le pavillon des savants lui suffisaient rarement pour comprendre les allusions des autres enfants.
« On devra juste faire attention à la malédiction, » ajouta Alix.
Ils entrèrent dans une autre salle, plus basse encore, commandée par une immense statue d'Anubis, le dieu chacal.
« De toutes les façons, » fit Zizo, « pour sortir d'ici, il n'y a qu'à trouver des escaliers et remonter. »
« Et puis, on n'est pas tout seul, regarde. »
Ils repérèrent une torche qui se consumait à l'autre bout de la pièce voûtée. Ils avancèrent. Les enfants savants qui l'avaient allumée et qui ne devaient pas se trouver loin pourraient leur indiquer le chemin. Alix et Zizo furent déçus. La torche semblait se consumer seule, enfoncée dans le bec d'un masque d'ibis accroché au mur, comme abandonnée là. Il y avait très peu de temps.
« Fascinant, ces souterrains !»
affirma soudain une voix dans leur dos. Alix reconnut immédiatement la voix, mais elle appartenait à la dernière personne qu'elle aurait cru trouver là.
« Oh, Génor ! Comment avait-il pu parvenir jusqu'ici ? Sans ascenseur ? Dans ce dédale de couloirs étroits et de marches ? Connaissait-il un passage secret ? Et plus étrange encore, qu'est-ce qu'il faisait là ?»
Zizo et Alix se retournèrent. Augénor se tenait devant eux, seul, assis dans son fauteuil roulant, comme s'il se trouvait en plein soleil sous la verrière de la pyramide. Curieusement, le conseiller ne leur demanda pas ce qu'ils fichaient tous les deux à 6 heures du matin dans les couloirs déserts du pavillon des savants. Augénor donnait l'impression de déjà le savoir, tel une sorte de dieu égyptien auquel on ne peut rien dissimuler.
« Ma présence ici doit vous surprendre, » ajouta Augénor. « Mais quand vous connaîtrez son motif, vous serez encore plus surpris. »«
Tu cherches quelque chose ?» demanda Alix.
« Un trésor ?»«
En quelque sorte. »
Zizo imaginait déjà que les souterrains du château dissimulaient des trésors cachés. C'était d'ailleurs le cas. Il existait dans le château des pièces fermées, remplies de vieux objets, de statues cassées, de tableaux abîmés, où aucun enfant n'avait le droit d'entrer. Peut-être, pensa Zizo, qu'avec la chute du soleil de fer, Augénor voulait tout réorganiser, agrandir les pavillons, ouvrir de nouvelles chambres, et pourquoi pas accueillir de nouveaux enfants.
« Ce trésor que je recherche, précisa Augénor, c'est celui de notre naissance. »
Il laissa Zizo et Alix réfléchir, puis s'expliqua.
« Je cherche le tombeau de Marie-Lune. »
La pièce voûtée aux hiéroglyphes semblait danser sous les torches. Les sarcophages verticaux de Pharaon aux yeux vides paraissaient dissimuler des monstres cachés à l'intérieur qui les regardaient. Alix repensa aux derniers mots de Marie-Lune. « Quand vous écouterez ce message, je serai morte depuis plus de 6 ans. Gardez-moi dans un coin de vos têtes et surtout,
après avoir écouté ce dernier message, ne cherchez pas à me retrouver. Son commandement était clair. Ne cherchez pas à me retrouver. Pourtant, Augénor, le membre du conseil toujours le plus respectueux des ordres de Marilune, lui désobéissait. « Mais, » demanda Alix sans comprendre, « pourquoi penses-tu que Marilune est enterrée ici ? Elle est morte depuis plus de 6 ans. On doit se débrouiller sans elle, elle nous l'a dit. »«
Elle est ici, » se contenta de répondre Augénor. Elle était très malade dans la dernière vidéo. Elle l'a enregistrée dans le château, elle était la dernière grande personne vivante. Elle n'a pas pu aller ailleurs se cacher pour mourir. Elle n'en aurait pas eu la force.
Ni la volonté. Elle est forcément restée là, parmi nous, quelque part.
Alix se fit la réflexion qu'Augénor, d'ordinaire si froid et sage, ne lui avait jamais paru aussi fragile. Et, autre surprise, lui aussi était donc capable d'enfreindre un commandement. Elle continua d'interroger son conseiller. Et alors, ça changerait quoi de retrouver son cercueil, ou même simplement son squelette ?
Seule Marilune connaît les réponses, répondit d'une voix très douce Augénor.
Qui sommes-nous, Alix ? Pourquoi avons-nous été réunis dans ce château, toi, moi, Lio et les autres ? Qui étaient nos parents ?
Seule Marilune connaît la vérité, sur chacun de nous.
Tout en parlant, Augénor continuait d'examiner les hiéroglyphes à la lueur des flammes. Alix s'apercevait que le cerveau d'Augénor, en même temps qu'il poursuivait la conversation, ne cessait de réfléchir à l'endroit où pourrait se dissimuler une tombe secrète.
« Marilune est morte !»
cria Alix, autant pour s'en persuader que pour le déconcentrer. Zizo s'était assis par terre, écoutant, ne disant rien, comme s'il n'était pas concerné. Lui aussi repensait aux derniers mots de Marilune, les tout derniers. « Je pense très fort à chacun de vous. Je vous aime, tous, comme aurait pu vous aimer chacune de vos mamans. » Cet amour ne le concernait pas. Lui n'avait jamais eu de maman, et n'en aurait jamais.
« Oui, » répondit toujours aussi calmement Augénor, « sans doute, elle est morte. » Même si nous n'en avons pas la preuve, mais elle nous a forcément laissé autre chose. Un signe, un testament, un fil, pas juste un écran vide.
Alix fit glisser son regard sur les hiéroglyphes, les sarcophages.
Oui, bien entendu.
Marilune pouvait fort bien avoir organisé sa mort comme les pharaons de l'Égypte antique, avoir caché son tombeau derrière des murs secrets. Pourtant, bizarrement, ce n'était pas l'image de dieux égyptiens qui lui venait à l'esprit. C'était celle des dizaines de tableaux de la Galerie des Singes qui représentaient la Vierge Marie, ainsi que tous ces hommes et femmes peints avec une auréole au-dessus de la tête. Ces personnages auxquels les grandes personnes avant le nuage croyaient. Ces saints, ils les appelaient ainsi, qui n'avaient pas de tombe, parce qu'après leur mort, ils montaient au ciel, devenaient des anges blancs et ailés, comme les colombes. Étaient-ils eux aussi condamnés à s'inventer de telles superstitions ? Seraient-ils capables de construire un monde où l'on ne cherche pas à retrouver ceux qui sont morts ? Si parmi les enfants, même Augénor ne le pouvait pas, qui le pourrait ?
« Elle est là, » dit encore Augénor.
« Elle est là, quelque part, je le sais. »
L'enfant handicapé frappait méthodiquement les accoudoirs de fer de son fauteuil contre les murs de pierre. Il s'acharnait à trouver un passage secret. Alix imagina qu'il passerait des nuits et encore d'autres nuits à chercher. Elle avait même l'impression qu'Augénor avait pleuré. De tous les enfants, il était de loin celui qui entretenait avec Marilune le lien le plus fort à cause de ses heures passées à la rotonde d'Apollon en tête-à-tête avec elle. Alix comprenait la chute du soleil de fer. L'absence définitive de l'image et de la voix de Marilune sur un écran. Pour Augénor, Marilune n'était pas morte il y a 6 ans. Elle était morte hier. Oui, Marilune les avait tous aimés, comme une maman aime chacun de ses enfants. Mais Augénor était son préféré.
Viens, fit-elle à Zizo. Viens, je pense qu'Augénor veut rester seul.